Je pense que vous êtes heureux de vous retrouver dans la présence du Seigneur autour de sa parole. Voilà, on va lire un texte que j'appelle un texte d'or. Toute la Bible est inspirée de Dieu, de la première à la dernière page, nous croyons. Ce n'est pas une parole humaine, mais la parole de Dieu. Et comme je le dis souvent, la Bible n'est pas catholique, elle n'est pas protestante, elle n'est pas évangélique. La Bible, c'est la parole de Dieu pour tous. Alors, on va ouvrir dans la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Philippiens. Vous savez ce que c'est qu'une chaîne de montagne? Ici, c'est pas si loin. Vous avez une chaîne de montagne, et quelquefois, vous avez dans cette chaîne un sommet, plus haut que les autres. Et personnellement, je considère ce texte comme un des sommets de la parole de Dieu. On lit, s'il vous plaît, au chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Version à traduire, Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Dès notre naissance, nous avons eu un nom que nous conservons jusqu'à notre dernier jour. Et même quand l'être humain est dans une tombe, on met toujours son nom sur cette tombe. Même vous, mesdames, quand vous épousez celui qui vous a... Alors, vous avez compris ce que je voulais dire. Eh bien, vous gardez quand même votre nom de jeune fille. Sur la carte d'identité de mon épouse ou sur son passeport, c'est marqué Madame Chédru. Non, pardon. Madame, son nom de jeune fille, comme vous, épouse Chédru. Donc, nous gardons notre nom jusqu'à la fin de nos jours. Et notre nom nous identifie. C'est vrai qu'il y a un autre Joël Chédru en Normandie, coureur cycliste, qui ne semble pas avoir fait beaucoup d'exploits. Il y a des homonymes. Mais Dieu ne se trompe pas. Il nous connaît chacun individuellement. Si je vous parle de certains noms, ça va immédiatement à votre esprit vous rappeler certaines choses. Parce que le nom, non seulement identifie la personne, mais aussi quelquefois s'attache à un fait, à un événement. Par exemple, si je vous parle d'un certain David et d'un autre Goliath, immédiatement, nous pensons à ce fameux combat qui est tellement connu qu'on entend quelquefois des journalistes, quand deux forces s'opposent, dire c'est le pot de terre contre le pot de fer, c'est David contre Goliath. On entend quelquefois, je me souviens à Europe 1, j'entendais cette expression de la bouche d'un journaliste. Si par exemple, je cite le nom de Judas, immédiatement, ce nom est lié dans notre esprit à la trahison. On sait que Judas, l'un des disciples de Jésus-Christ, l'a trahi, vendu misérablement. Je ne parle pas du petit Judas qu'on met quelquefois aux portes pour voir qui est de l'autre côté. Mais vous l'avez bien compris. Il a commis l'innommable. Alors que le baiser est un geste d'affection, de respect, il s'est servi du baiser. Il avait dit aux religieux, « Celui que j'embrasserai, c'est lui. » C'est incroyable. utiliser un geste d'affection, un geste de respect pour trahir son maître. Si je cite le nom de Thomas, lecteur de la Bible, ça vient, et même ceux qui ne sont pas pour autant bien au clair des textes bibliques, mais il y a des choses qui se disent tellement. Moi, je suis comme Thomas. Je crois que ce que je vois, je le disais hier, hein, ça c'est pas vrai. Il y a bien des choses dans lesquelles nous croyons et que nous n'avons jamais vues. Je suis comme Thomas. Enfin, Thomas, qui avait dit aux disciples qui avaient rencontré Jésus ressuscité, c'est Thomas. On l'a vu, il est vivant, il est ressuscité. Il me semble voir Thomas. Mais l'Évangile nous dit, Thomas dit, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté qui a été percé par le coup de lance du soldat romain alors que le Christ était encore en croix, je ne croirai point. Enfin, Thomas, il était honnête. Parce que quelquefois, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, je suis comme Thomas, mais ils n'ont pas voulu venir à la réunion suivante. Tandis que Thomas, lui, il est venu à la réunion suivante. Et Jésus apparaît au milieu des disciples, et Jésus ne semble pas s'intéresser aux autres. Thomas, viens ici, parce qu'on n'a pas eu besoin d'informer Jésus sur ce que Thomas avait dit. Jésus sait tout, tout ce qui nous concerne. Thomas s'est approché, et Jésus lui dit, mets ton doigt, mets ta main. Il ne l'a pas fait, mais il s'est mis à genoux dans le Seigneur, en s'écriant, mon Seigneur et mon Dieu. Le nom nous rappelle des choses, des faits, des situations. Si je cite le nom de Jésus, qui est le thème de notre série de réunions, pour certains, immédiatement, ils vont penser à la religion. Ils vont penser à la crèche. Ils vont penser au crucifix. Mais pour nous, le nom de Jésus évoque celui qui est Dieu de toute éternité et qui, par amour pour nous, a accepté de quitter la gloire, de s'enfermer dans un corps semblable au nôtre, par ce miracle extraordinaire de la naissance du Fils de Dieu, du sein d'une Vierge, la Vierge Marie, conçue par le Saint-Esprit. Le seul qui soit né de cette manière sur l'histoire de toute l'humanité, c'est Jésus. Jésus, c'est un nom qui chante dans notre cœur. Jésus, c'est pour nous le nom de notre espérance. Jésus, c'est le nom de notre salut. L'apôtre Pierre, que Satan appelle Saint-Pierre, l'apôtre Pierre dira, il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus par lequel nous sommes sauvés. Jésus dira lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Dans le texte que nous avons lu, de conditions divines, il existait de toute éternité, en tant que Dieu, égal au Père. De conditions divines, il n'a pas retenu jalousement, comme l'a traduit une version, ce rang divin qu'il égalait à son Père, mais il s'est dépouillé. Il a pris cette condition humaine afin de venir nous sauver. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous savez qu'il y a des noms célèbres. Christophe Colomb, on l'a tous appris, qui a découvert l'Amérique. Vous avez Napoléon, qui évoque ce grand conquérant. Vous avez Beethoven, Mozart, Jean-Sébastien Bach, des musiciens légendaires. Vous avez Pierre et Marie Curie, qui ont découvert le radium, qui a sauvé tant de vies humaines. Vous avez bien des noms qui sont devenus célèbres à cause de leurs conquêtes, à cause de leurs découvertes, à cause de leurs exploits. Mais, et j'aime cette version, le nom qui l'emporte sur tous les noms, c'est le nom de Jésus. Amen. Parce que tous ces hommes que je viens d'évoquer font partie de l'histoire, du passé. Mais Jésus, certes, fait partie de l'histoire du passé, car il a vécu sur notre terre il y a quelques 2000 ans, mais il fait encore partie de notre actualité. Parce que ce Jésus n'est que la parole de Dieu nous révèle. Non seulement il est venu, non seulement il a été crucifié, non seulement il est ressuscité, non seulement il est monté au ciel, mais il agit encore aujourd'hui. Il secourt et sauve ceux qui osent lui faire confiance. Jésus, le nom qui l'emporte sur tous les noms. Nous avons eu par la grâce de Dieu deux filles et nous avons cinq petits. Vous remarquez qu'il y en a un qui est bien plus grand que moi, mais c'est mon petit-fils quand même. Dites-moi, quand dans un foyer, un bébé est attendu, qui choisit le prénom? Les parents. Vous avez raison, madame, ce sont les parents. Imaginez que vos enfants attendent un bébé et vous vous permettiez de dire à votre fille ou à votre fils, tu devrais l'appeler comme ça. Je veux que tu l'appelles comme ça. Est-ce que ça passera? Alors, quelquefois, vous savez, j'ai remarqué quelquefois, il y a des parents qui ont un bébé ou qui l'attendent. Comment vous allez l'appeler? Comme ça? Ah oui. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Jésus, ce n'est pas Marie, sa mère, qui a choisi son nom. Ce n'est pas Joseph, son père adoptif, parce que le père de Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu qui a choisi son nom. Je lis dans l'Évangile, Marie a eu la visite d'un ange, et Joseph aussi a eu la visite d'un ange. L'Écriture nous dit, un ange est apparu à Joseph avec ce message, Marie enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et l'ange Gabriel qui vient vers Marie, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est Dieu qui a choisi. Est-ce que Dieu a choisi parce que ce nom phonétiquement était un nom agréable à entendre? Non. L'Écriture ajoute, car il y a une raison. C'est lui qui sauvera son peuple littéralement de leurs péchés. Parce que Jésus est juif comme son peuple, mais il n'est pas pécheur comme son peuple. Littéralement, c'est lui qui sauvera son peuple, pas seulement les juifs, mais tous les humains, de leur péché. Car l'Écriture est claire, Jésus est sans péché, il n'a jamais péché. Est-ce que quelqu'un peut en dire autant au milieu de nous ce soir? Non. Il est parfait, nous dit la Bible, pour l'éternité. C'est le nom qu'il emporte sur la maladie. On voit dans l'Évangile de nombreux malades qui ont été guéris. Et Jésus ressuscité, remonté au ciel, il continue par l'action de son esprit de guérir encore des malades. Et on lit dans la parole de Dieu qu'au début de l'Église qui fut créée après la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, eh bien, un homme a été guéri au nom de Jésus. Et je lis ceci dans la parole de Dieu, c'est la foi en son nom que son nom, le nom de Jésus, a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que cet homme se présente en pleine santé devant vous tous. Jésus, avant de quitter la terre pour remonter au ciel, a dit à ses disciples, les chargeant d'une mission, vous allez annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile, et vous allez imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Ce n'est pas celui qui impose les mains qui guérit, ce n'est pas l'imposition des mains qui guérit, mais c'est le Seigneur Jésus. Et quand nous imposons les mains aux malades, nous le faisons au nom de Jésus, c'est-à-dire sur sa parole, de sa part, à sa place en quelque sorte, lui étant remonté au ciel, il nous a chargés d'accomplir cet acte. Avec foi, nous attendons à recevoir l'intervention de sa grâce dans nos vies. Jésus, c'est le nom qu'il emporte sur les puissances des ténèbres, sur les démons. Il y a de nombreux exemples dans la parole de Dieu. Et on chante quelquefois ce cantique, le nom de Jésus fait trembler les abîmes, fait fuir les démons, il lâche leurs pauvres victimes. C'est le nom de Jésus. Il n'y a rien de... Il n'y a pas une... Comment dirais-je... Quelque chose de... Je cherche le mot... De mystérieux. Ce n'est pas de la superstition. C'est de la foi dans la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus l'emporte sur le péché. Le péché, ce n'est pas seulement un acte coupable. Bien sûr, quelqu'un vole, il a péché. Quelqu'un commet adultère, il a péché. Mais le péché, c'est plus qu'un acte. Le péché, c'est déjà au niveau de nos pensées, au niveau de nos paroles, au niveau de nos sentiments. Et en tant qu'être humain, nous avons tous, vous et moi, contaminé par le péché. Personne ne peut dire honnêtement, moi je, le bon Dieu n'a rien à me reprocher, je suis innocent comme l'enfant qui vient de naître. Non, tous plus ou moins d'une manière ou d'une autre, nous avons été contaminés par le péché. Et le péché devient aussi une puissance qui fait de l'être humain un esclave. J'ai quelquefois entendu des gens me dire, mais c'est plus fort que moi, je voudrais mais je ne peux pas. Tel cet alcoolique qui a promis à sa femme, à ses enfants, je ne recommencerai plus, alors qu'il venait de tout casser à la maison, c'est fini, je ne recommencerai plus. Et quand il passe devant le bistrot, il ne peut pas s'en empêcher. Il est esclave. Jésus, c'est le nom qui l'emporte sur le péché, qui libère et change entièrement les vies, que son nom soit béni. Je l'ai dit déjà, le nom de Jésus, c'est le nom du bienfaiteur par excellence. J'aime cette expression de l'apôtre quand il résumera le ministère de Jésus. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Nous croyons, comme il l'a promis dans sa parole, que le Seigneur est au milieu de nous par son esprit. On ne le voit pas, mais lui nous voit. Il voit non seulement notre visage, mais il sait tout de notre vie, de nos pensées. Rien ne lui échappe. Il connaît notre souffrance. La Bible dit quelque part dans le livre des psaumes que le Seigneur suit de son regard ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance, afin de prendre en main leur cause. Et si vous êtes dans la peine, dans la souffrance, dans la difficulté, si vous acceptez de mettre entre ses mains votre cause, votre problème, votre vie, croyez-moi, vous serez dans de bonnes mains. Il s'occupera de vous, parce qu'il vous aime, il vous veut du bien. Il est là, ce soir, au milieu de nous, et c'est ce qui donne à cette réunion toute sa valeur. Car si Jésus n'était pas là, nous ne pourrions pas nous attendre à une intervention de sa grâce dans nos vies. La parole de Dieu dit, et c'est l'apôtre Pierre dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le clouant sur le bois de la croix, mais Dieu l'a ressuscité, et ce n'est pas un Christ mort. Nous n'avons pas ici de croix avec un Christ cloué, parce que il n'est plus sur la croix depuis longtemps, il n'est même pas dans le tombeau, il est au ciel. Et la Bible dit, c'est pour cela, parce qu'il est toujours vivant, et aujourd'hui, on est le 4 mai 2015, aujourd'hui, Jésus est vivant. Jésus est puissant. Son nom ne fait pas partie de l'histoire du passé seulement. Elle fait partie de notre actualité. Et le nom de Jésus peut changer l'histoire de votre vie. Vous savez que nous sommes en 2015, après Napoléon Bonaparte. Non ? Après qui ? Après Jésus-Christ. Les historiens ont considéré que la venue de Jésus sur la terre a bouleversé l'existence, il y a eu un changement. Alors il y a ce qui s'est passé avant la venue de Jésus. L'histoire de France, on s'en souvient, enfin, on a retenu encore quelques dates. La Révolution, 1789, mais à part ça, on en a beaucoup oublié. Et il y a ce qui s'est passé après. Et croyez-moi que si vous recevez Jésus dans votre cœur, dans votre vie, par la foi, il y aura un avant et il y aura un après. Moi, quand je donne mon âge aujourd'hui, je compte pas les années avant ma conversion, ça me rajeunit. Si vous recevez Jésus dans votre vie, croyez-moi, il y aura un avant et un après. La Bible nous parle d'un homme appelé Saul de Tarse, qui était un extrémiste dans sa religion, qui était un homme qui était plein de haine contre les disciples du Christ. Il les poursuivait, il les faisait mettre en prison, il les persécutait. C'était un religieux extrémiste, comme il y en a encore aujourd'hui malheureusement. Mais quand il a rencontré Jésus, ce fut un homme nouveau. Et j'ai toujours été étonné. Cet homme qui avait une haine terrible contre les disciples de Jésus-Christ, quand il aura donné sa vie au Seigneur, il écrira aux croyants, aux disciples du Christ, « Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. » Bon, quel changement! Pourquoi on chante quelquefois, on l'a chanté tout à l'heure, « Tu peux naître de nouveau. » Tu peux tout recommencer. Tu peux repartir à zéro, voir une vie transformée. Ce n'est pas une religion qui peut nous changer. Ce n'est pas une philosophie ni des traditions, mais c'est la personne de Jésus, notre Sauveur. Il est celui qui sauve, il est celui qui guérit. Un jour, à la fin d'une réunion, un couple est arrivé. Je leur ai dit, c'est dommage, vous arrivez, ça vient de se terminer. Et j'ai parlé avec le monsieur et la dame, et le monsieur me disait qu'il souffrait de capsulite rétractive. Il ne pouvait plus lever les bras. Il travaillait dans une entreprise, il avait une centaine d'hommes sous ses ordres, mis à l'invalidité. De plus, il souffrait de l'estomac depuis 32 ans. Il prenait des médicaments en quantité. Alors, je n'ai pas prié pour lui. Je lui ai dit, écoutez, venez dimanche. Nous avons une réunion dimanche. Et on priera pour vous. On impose les mains aux malades. Je lui ai expliqué qu'on n'était pas des guérisseurs, hein, que c'était le Seigneur qui guérissait. Et ils sont venus tous les deux à la réunion. Ils ont osé faire confiance au Seigneur. Ils ont osé croire la parole. Et cet homme a été entièrement guéri de sa capsule rétractive et de son estomac. Terminé les médicaments. Il était tellement heureux de pouvoir lever les bras au ciel qu'il nous a repeint tout le plafond de l'église. Il a repeint tout le plafond de l'église. Jésus guérit encore aujourd'hui. Certainement qu'ici, quelques-uns ont pu expérimenter la puissance du Seigneur. Mon frère, à l'âge de 18 ans, est tombé tuberculeux. Caverne à un poumon, infiltration à l'autre. Hospitalisé d'urgence. Ça remonte à des années, c'était en 1955. Le professeur Lemercier de Rouen a dit à mes parents, ça aurait été il y a 10 ans, je ne répondais pas de sa peau. Textuellement. Il a eu un traitement de choc. Mais mon frère, ce jour-là, a compris qu'il n'y en a qu'un qui pouvait vraiment le sortir de là. Il a donné son cœur au Seigneur Jésus. Alors il a fait, c'est lui qui l'a fait, personne ne lui a dit de le faire, et je ne vous dis pas qu'il faut faire la même chose, mais lui c'est ce qu'il a fait, il avait du rumifant, des pilules, il en mettait la moitié dans le lavabo. Il avait des perfusions de PSA, ceux qui connaissent un peu, et quand l'infirmière était partie, il avait déjà prévu un petit flacon sous les draps, il en mettait la moitié dedans, après il versait dans le lavabo, et il faisait confiance au Seigneur. Au bout de quelque temps, le professeur Lemercier a dit « C'est étonnant la rapidité de guérison. » Et quand il a été complètement guéri, le professeur a dit « On ne pourrait pas croire, en voyant tes poumons aujourd'hui, que tu étais pareillement atteint. » Jésus est toujours le même. Sa belle-mère, à lui, que j'ai bien connue, elle a eu un cancer. Elle a osez croire dans la parole de Dieu. L'Église, les croyants ont prié pour elle. Le Seigneur l'a entièrement guérie. Et elle a été tellement heureuse, elle a voulu être reconnaissante envers le Seigneur. Elle travaillait dans un grand lycée dans les cuisines. Il y avait besoin d'une cuisinière pour une de nos maisons de retraite. Elle a donné son compte. Elle a servi encore 16 ans dans cette maison de retraite. Heureuse de servir. Non, c'est pas du passé seulement. La guérison divine est encore pour nous aujourd'hui. Le Seigneur nous demande seulement de lui faire confiance, de croire dans la puissance du nom de Jésus. Ils imposeront les mains aux malades au nom de Jésus. Et les malades seront guéris. J'aurai l'occasion de donner demain soir d'autres témoignages. Parce que demain soir, nous allons aborder un sujet. Jésus guérit les cœurs brisés. Le corps, c'est une chose, mais le cœur. Et c'est plus difficile souvent de souffrir moralement que de souffrir physiquement. Le nom de Jésus contient tous les trésors de la grâce divine. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de croire. Il n'y a rien de magique, mais seulement de lui faire confiance. Mais je ne peux pas évoquer le nom de Jésus en occultant la croix, en occultant son sacrifice. Oh, bien sûr, nous sommes dans un pays dit christianisé qui malheureusement se déchristianise de plus en plus. Mais il y a encore ici et là, au carrefour, dans les montagnes, dans les campagnes, des calvaires. Qui ne sait pas que Christ est mort? Mais malheureusement, beaucoup ignorent pourquoi. La parole de Dieu nous dit que Jésus, un jour, a pris la résolution de se rendre à Jérusalem. Oh, c'était pas la première fois. Il y était allé plusieurs fois, il a parcouru le pays d'Israël du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais là, c'était la dernière fois. Il savait ce qui l'attendait. Il savait qu'on allait l'arrêter, le condamner, le crucifier. Mais il a pris la résolution de se rendre à Jérusalem. Est-ce que nous avons toujours été jusqu'au bout de nos résolutions? Au jour de l'an, quelquefois, on prend des résolutions. Mais est-ce que nous allons toujours jusqu'au bout? Jésus est allé jusqu'au bout. On est venu pour l'arrêter, comme si c'était un brigand de grand chemin, avec des épées, des bâtons. On l'a lié, aujourd'hui on lui aurait mis les menottes. On a attaché ses mains qui s'étaient posées sur tant de malades pour les guérir, ses mains qui ont fait tellement de bien. Ils l'ont condamné. Chers amis, j'aimerais que vous puissiez prendre conscience de la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Permettez-moi cette anecdote. Vous avez tous entendu parler des violons Stradivarius. Ce sont les violons les plus chers. À Londres, par exemple, en 2011, un Stradivarius a été vendu aux enchères, dont le bénéfice de la vente a été envoyé pour secourir les gens de Fukushima au Japon. Il a été vendu 11 millions d'euros. Tout le monde n'a pas un Stradivarius dans le coffre de sa voiture. Et un jour, un violoniste était annoncé comme jouant du Stradivarius et le concert était donc préparé, la salle retenue, la date fixée. Pas besoin de vous dire que la salle fut comble. Le violoniste est apparu sur la scène avec son violon, il a joué, les gens étaient émerveillés, et quand il eut terminé, les gens se sont levés et ils ont applaudi les deux. Et puis, les applaudissements se calmant, l'artiste étant encore sur scène, il a pris son violon, tac ! Ah ! Quand on sait le prix d'un Stradivarius, qu'est-ce qui lui passe ? Mais il est fou ! Alors l'organisateur du concert est arrivé, mais messieurs, dames, ne vous inquiétez pas, c'est pas son Stradivarius, c'est un petit violon qu'il a acheté pas cher quelque part, maintenant il va jouer avec son Stradivarius. Alors il a joué. Et puis quand il a eu terminé, il a demandé à l'auditoire, quels sont ceux parmi vous, je vous invite à être honnête, quels sont ceux parmi vous qui ont fait la différence entre la première fois avec le violon que j'ai brisé et la deuxième fois. À part quelques mélomanes avertis qui ont levé la main, l'ensemble de l'auditoire n'a pas su faire la différence. Et il a dit, voyez-vous, j'ai voulu vous montrer que ce n'est pas tant l'instrument que l'instrumentiste qui est important. Ce n'est pas tant le violon lui-même que le violoniste. Permettez-moi cette image pour vous dire que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et même si votre vie ressemble à une cacophonie avec une quantité de sons discordants, si vous acceptez de mettre votre vie entre les mains de Jésus, d'une main de maître, il en fera une véritable harmonie. Jésus change la vie. Sachez que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, que Jésus vous aime. Prenez un billet de 100 euros, tout neuf. Il est bien, tout neuf, pas un pli. Et puis vous avez un billet de 100 euros qui a été froissé, un petit peu déchiré en coin, sali même. Si vous donnez à un commerçant le neuf, il va le prendre. Si vous lui donnez celui qui est abîmé, taché, il va le prendre quand même. Parce qu'ils ont la même valeur. Ami, vous avez peut-être une vie bien rangée, honnête, correcte. Vous êtes un bon père de famille, une maman fidèle, une épouse fidèle, mais pécheur quand même. Votre vie est-elle entachée, déchirée, brisée? Avez-vous même peut-être honte de vous-même? Vous avez toujours de la valeur aux yeux de Dieu, la même valeur, parce que vous êtes sa créature. Il vous a créé, lui. C'est lui qui vous a tissé dans le sein de votre mère. C'est lui qui vous a donné le souffle de vie. Et c'est parce que vous avez de la valeur, qui que vous soyez, même si vous avez le poing contre Dieu, que Jésus, pour vous, comme pour chacun d'entre nous, pour le monde entier, a payé de sa vie et de son sang sur la croix du calvaire, afin d'expier nos péchés et de nous donner son pardon, le salut, la vie éternelle. Jésus n'a pas été, j'aime à le dire, victime impuissante d'un complot duquel il n'aurait pu échapper. Au cours de son ministère, par 5 fois, il a dit « Je donne ma vie, personne ne me l'ôte ». Peut-être que vous n'avez pas chez vous la parole de Dieu. Le pasteur se fera un plaisir de vous offrir le Nouveau Testament. Vous pourrez lire dans les évangiles, dans l'évangile de Jésus-Christ, tout ce qui s'est passé quand le Christ a donné sa vie. Lisez et relisez la fin de l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Et vous verrez quel amour le Seigneur a manifesté, quel amour il a démontré pour nous sauver. Ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas nos mérites, encore moins notre argent qui pourra changer notre vie, mais c'est le Seigneur, le Sauveur. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est le nom qui l'emporte, le nom de Jésus qui l'emporte sur la maladie. C'est le nom qui l'emporte sur les ténèbres. C'est le nom qui l'emporte sur le péché. C'est le nom qui peut l'emporter dans votre vie si seulement vous acceptez de lui ouvrir votre cœur. Ce n'est pas une religion que vous proposons. Ce n'est pas une église qui peut vous sauver, quelle qu'elle soit, mais seulement le nom de Jésus. Je vais vous dire en quelques mots. Laissez une image pour terminer, pour que vous puissiez bien comprendre ce que signifie la croix. Quand j'étais garçon, j'étais comme tout le monde. Quelquefois, je faisais des bêtises. Et un jour, j'étais chez une de mes tantes, puis j'ai fait une bêtise de gamin. Et mon père a voulu me corriger, ce qui est logique. La Bible dit dans le livre des Proverbes, celui qui aime son fils le corrige. C'est comme un petit arbre, on lui met un tuteur, il ne faut pas qu'il parte de travers. Et je méritais une correction. Mon père a voulu me donner une gifle. Pas me massacrer, mais une gifle. Ma cousine qui était là, puisque j'étais chez ma tante, s'est interposée entre mon père et moi. Qu'est-ce qui a pris la gifle? C'est elle. Elle m'en parlait encore il n'y a pas si longtemps. Nous avons fait plus que des bêtises, nous avons péché contre Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste. Il doit sanctionner le péché. Mais Jésus s'est interposé entre Dieu, qui est saint et juste, et nous, pécheurs, par la croix. Et c'est lui qui a pris, non pas la gifle, mais le châtiment. Il a payé de sa vie. Voyez quel amour, dit l'apôtre Jean, le Père nous a aimés. Amis, qui que vous soyez, Dieu vous aime. Et parce qu'il vous aime, il veut vous faire du bien. Je vous invite à ouvrir votre cœur et à revenir demain soir. Jésus qui guérit les cœurs brisés. Mercredi soir, nous verrons plus en détail tous les événements qui entourent la mort du Christ sur la croix. Et jeudi soir, Dieu voulant, nous verrons la résurrection de Jésus et ses conséquences merveilleuses pour ceux qui lui font confiance. Que le Seigneur vous bénisse. On va se recueillir, si vous le voulez, et terminer par la prière.